Bonjour, je viens vous parler de démocratie, de la vraie, celle qui n'existe pas et dont on a bien besoin aujourd'hui. En 2005, à l'occasion d'un débat public en France, j'ai écrit un papier de 10 pages sur ce qui me révoltait dans une prétendue constitution qui était proposée au référendum, et j'ai envoyé ce document à mes proches, l'ai publié sur mon site perso. Et là, tout a basculé pour moi. Cet argumentaire serré pour le non répondait probablement à une attente, à un manque, et les gens normaux l'ont envoyé à tous leurs contacts, partout en France et même dans le monde, car ils l'ont traduit en 5 ou 6 langues. Et grâce à Internet, c'est devenu un événement. En rentrant du lycée, tous les jours, après mes cours, j'ouvrais ma boîte aux lettres et là, une pluie de mails commençait toutes les minutes, des dizaines de mails, toute la soirée, toute la nuit. Pendant des mois, j'ai essayé de répondre à tous ces gens, soit des gens qui comptaient sur moi, soit des gens qui disaient du mal de moi. Dans les deux cas, j'essayais d'être à la hauteur. Tous les journaux, les radios, les télés sont passés à la maison pour comprendre ce phénomène. Le compteur de mon site tournait comme un ventilateur. J'ai reçu jusqu'à 40 000 visites par jour. Et je peux vous dire que c'est une sacrée revue à comité de lecture. 12 000 mails en 2 mois. Des mails intenses, chaleureux, exigeants aussi. Et toute cette émotion a tendu un ressort en moi. Et ça continue à le tendre aujourd'hui. Et je me suis aperçu que c'est le regard des autres qui m'a changé en profondeur. Les regards reconnaissants et les regards suspicieux, les deux. Mon regard est nourri de cette importance que je donne au regard des autres. Et j'ai découvert récemment que les hommes savent depuis longtemps que c'est important pour l'intérêt général. Ça s'appelle la vergogne et ça pousse à la vertu, ça donne du courage. Pour les Athéniens, c'était un fondement de la vie de la cité. Platon considérait même que l'on devait mettre à mort le citoyen sans vergogne, extrêmement dangereux pour la cité. Bon, on n'est pas obligé d'être aussi brutaux aujourd'hui, mais je pense que c'est un concept encore essentiel aujourd'hui. Donc après le référendum, j'ai continué, j'ai bossé comme un fou depuis 6 ans. Et voilà, en 2 mots, pourquoi je me donne du mal. 1. Je cherche à comprendre la cause principale des injustices sociales. 2. Je découvre les idées géniales qui fondaient la démocratie athénienne. 3. Je remets des tas de mots importants à l'endroit, à cette occasion. Et 4. Je réfléchis à de bonnes institutions qui nous protégeraient durablement, tous, contre les abus de pouvoir. Et je partage ça avec tous ceux qui veulent bien, on progresse ensemble, en controverse permanente. Alors évidemment, je suis calomnié, récupéré parfois, mais c'est pas si grave. De toute façon, j'ai absolument besoin de mes adversaires pour progresser, donc je fais de mon mieux, j'avance, je cherche. Et ma méthode pour chercher est celle d'Hippocrate, que je considère peut-être comme la meilleure idée du monde, vous allez voir. Ce médecin disait « chercher la cause des causes ». Autrement dit, pour soigner un mal, pour régler un problème, inutile de s'en prendre aux conséquences, évidemment, mais inutile de s'en prendre même aux causes diverses, puisque tout est multifactoriel. Il y a toujours une cause déterminante, pas la seule, mais une qui détermine toutes les autres. Et c'est elle qu'il nous faut. Alors je partage bien sûr le combat de mes copains résistants. Je vous ai fait un schéma pour représenter l'arbre des injustices et de nos luttes spécialisées. Mais j'observe que les militants se battent tous contre des conséquences. J'observe qu'aucun ne prend le mal à la racine. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui rend possible toutes ces horreurs écologiques, économiques, sociales? C'est ça qu'il faut comprendre. Et je crois que ce qui rend possible les injustices sociales, c'est l'impuissance politique des gens bien, des gens normaux. Je pense que si le peuple avait le pouvoir de résister, il le ferait, victorieusement. Mais alors, cette impuissance populaire, d'où vient-elle elle-même? Je cherche toujours la cause des causes, j'essaie de remonter vers l'amont. Elle ne tombe pas du ciel, notre impuissance, elle est programmée dans un texte supérieur, un texte essentiel dont tout le monde se fout, et qui s'appelle la Constitution. Tout le monde s'en fout, notez bien, sauf les multinationales et les banques quand même, hein. Comprenez, c'est dans la Constitution que les élus n'ont pas de compte à rendre. C'est dans la Constitution que les élus ne sont pas révocables. C'est dans la Constitution qu'on ne peut pas choisir librement nos candidats. C'est dans la Constitution que les pouvoirs ne sont pas séparés. C'est dans la Constitution que le référendum d'initiative populaire n'est pas prévu. C'est dans la Constitution que la monnaie n'est pas publique et qu'elle est abandonnée ou abandonnable au privé, ce qui est une folie, etc., etc., etc. Mais cette cause elle-même, cette mauvaise constitution, elle a une cause première. Qui a écrit ce texte? Qu'est-ce qui fait que partout dans le monde, à toutes les époques, toutes les constitutions programment l'impuissance des peuples au lieu de programmer leur protection? C'est sûrement pas un complot, pas partout, pas tout le temps, ça c'est pas possible. Non, ce processus universel a une cause première, universelle elle aussi. Écoutez bien. Selon moi, tous les êtres humains du monde, par paresse, par peur ou par ignorance, renoncent à écrire eux-mêmes leur constitution. Et tous acceptent que ce soit des professionnels de la politique qui écrivent et modifient la constitution. Des parlementaires, des juges, des ministres, des membres de parti. Or, il faut bien comprendre ce que c'est une constitution, à quoi ça sert. Tous les citoyens devraient savoir ça. Nous autres, le peuple, avons besoin de représentants, au-dessus de nous, ayant un pouvoir pour produire un droit écrit et appliquer ce droit, qui pacifie notre société en empêchant la domination arbitraire des plus forts. Bon. Mais depuis toujours, on sait que ces pouvoirs ne sont pas que utiles, ils sont aussi dangereux. Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Voire Montesquieu. C'est comme une loi physique, implacable. Et l'outil génial pour nous protéger des abus de pouvoir, c'est la Constitution. Écoutez bien, la Constitution, c'est un texte qui sert à affaiblir les pouvoirs. La Constitution, pour faire son boulot de protection, elle doit inquiéter les pouvoirs. Donc, ils doivent la craindre. Mais alors, si les pouvoirs doivent craindre la Constitution, ils ne doivent évidemment pas l'écrire. C'est pourtant facile à comprendre et à prévoir que des professionnels de la politique, au moment d'écrire eux-mêmes les règles supposées les effrayer plus tard, ces gens-là sont en conflit d'intérêts. Ils sont à la fois juges et partis. Dans cette occurrence précise, ils ne peuvent pas être justes. Ils vont évidemment programmer leur puissance et notre impuissance. Et on ne peut même pas leur en vouloir. Personne n'est assez fort pour se faire politiquement harakiri. C'est normal, n'importe qui ferait la même chose. C'est à nous, et à nous seuls, de leur interdire d'écrire, parce qu'ils n'y renonceront pas eux-mêmes, jamais. La solution ne viendra pas d'eux, mais de nous. Et la voilà donc la cause des causes sur laquelle on devrait se réunir pour devenir fort. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Il faut qu'on arrête de démissionner là-dessus. Alors la première bataille décisive, c'est de remettre tous les mots importants à l'endroit. Aujourd'hui d'abord, je ne suis pas un citoyen. Un citoyen, c'est autonome. Il vote lui-même ses lois. Moi, je ne suis qu'un électeur, c'est-à-dire un enfant politique. Je suis hétéronome. Je subis la loi votée par un autre que moi. Mes parents, entre guillemets, mes parents en politique, les élus, ne veulent pas que je m'émancipe d'eux. Ils ne veulent pas que je grandisse et que je devienne autonome. Ils refusent que je vote moi-même pour ou contre les lois auxquelles je me soumets. Je rappelle le coup d'État du 4 février 2008, où nos prétendus représentants nous ont imposé par voie parlementaire le traité anticonstitutionnel que nous venions de refuser expressément par référendum. Ce viol politique est gravissime et nous n'avons pourtant aucun moyen de résister, même à ça. Ils disent que nous sommes entre guillemets, incompétents. Et ils nous traitent comme des enfants. Mais c'est bien notre faute. On est bien, peut-être, d'une certaine façon, des enfants. Les enfants croient au Père Noël et les électeurs croient au suffrage universel. Nous acceptons d'appeler démocratie, demos kratos, le pouvoir au peuple, son strict contraire. La prétendue démocratie moderne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le seul droit de, un, désigner des maîtres, parmi des gens qu'on n'a pas choisis, et qui sont choisis d'ailleurs par les plus riches, et sans avoir aucun moyen de résister à une éventuelle trahison entre deux élections. Avec en plus, c'est vrai, le droit d'expression, mais sans aucune force contraignante. Et puis c'est tout. Alors le vrai nom de ce régime antidémocratique, c'est gouvernement représentatif, enfin prétendument représentatif, on devrait appeler ça une plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des plus riches. En fait, nous acceptons d'appeler constitution un texte qui n'en est pas une. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut simplement le mot de constitution ou est-ce qu'on veut la vraie protection que cette constitution doit programmer? Donc pour bien résister, il faut commencer par faire la grève des mots menteurs, comme démocratie, suffrage universel, citoyen, constitution, qui ont été mis carrément à l'envers par ce que j'appelle les voleurs de pouvoir, ce qui est plus simple. Et ce projet antidémocratique, c'est volontaire depuis le début. Sieyès, un des penseurs les plus influents de la Révolution française, disait en 1789 « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Abbé Sieyès, discours du 7 septembre 89. Ben je compte, c'est clair là, non? Il y a une autre citation encore plus explicite de Voltaire. Une société bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est ramassé, ça, comme définition. Hein. Voltaire démocrate, c'est une blague, c'est un oligarque, oui. L'histoire nous démontre, en détail, l'imposture et les trucages permanents du gouvernement représentatif depuis 200 ans. Je vous recommande les vidéos d'Henri Guillemin sur le net, que je trouve formidables. Et donc, ces gens-là qui ont créé le gouvernement représentatif savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien que c'est l'élection qu'il leur fallait et pas le tirage au sort. Tous les penseurs du monde avant 1789, de Platon, Aristote à Montesquieu, Rousseau, savaient et écrivaient que 1. L'élection est par nature aristocratique, donc oligarchique, et que 2. La seule procédure qui soit démocratique, c'est donc le tirage au sort, assorti de 1000 contrôles des gens qui sont désignés par le sort. Lisez ces deux citations à 2000 ans d'intervalle. Aristote, ouvrez les guillemets, « Les élections sont aristocratiques et non démocratiques. Elles introduisent un élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les aristoi, au lieu du gouvernement par le peuple tout entier. » Fermez les guillemets. Montesquieu, ouvrez les guillemets, « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par choix et de celle de l'aristocratie. » Fermez les guillemets. Bon, c'est pas une lubie du perchoir, c'est une question de définition à respecter pour que tous les mots aient un sens, pour qu'ils restent à l'endroit. Et c'est comme ça partout dans le monde. Je voudrais me référer à l'histoire et aux faits. On a deux expériences historiques assez longues. La démocratie, et donc le tirage au sort, Athènes pendant 200 ans, il y a 2500 ans, et le gouvernement représentatif, et donc l'élection, pendant 200 ans aussi, depuis 1789. Regardons les résultats. 1. J'attire votre attention, mesdames et messieurs, sur le fait que, pendant 200 ans, le tirage au sort a toujours donné le pouvoir aux plus pauvres, les 99%. Regardez les deux siècles de démocratie à Athènes, il n'y a pas d'exception. 2. Alors que l'expérience montre que l'élection donne toujours le pouvoir aux 1% les plus riches, regardez les 200 dernières années, il n'y a pas d'exception. Alors ma question centrale est, combien de temps les pauvres, les 99%, vont-ils encore préférer l'élection au tirage au sort contre leurs intérêts les plus évidents? Notre préférence pour l'élection est incompréhensible. Il n'y a que les mythes pour l'expliquer. Le tirage au sort n'est pas enseigné depuis 200 ans à l'école dite républicaine qui nous serine tous les jours élection égale démocratie, démocratie égale élection, ce qui explique notre difficulté intellectuelle à intégrer cette procédure dont nous avons tous besoin, partout sur Terre, pour nous sortir du pétrin. Il faut du temps pour se désintoxiquer. Le tirage au sort vous fait peur? Pour vous rassurer, il faut que je vous prévienne contre un malentendu fréquent. En démocratie, écoutez bien, ce ne sont pas les tirés au sort qui décident. Le tirage au sort, il sert précisément à affaiblir les représentants. En gros, les tirés au sort, ce sont ceux qui préparent les lois et ceux qui les appliquent, les fonctionnaires, les policiers, les juges. Avec le tirage au sort, on affaiblit ces représentants pour qu'ils restent nos serviteurs et qu'ils ne deviennent jamais nos maîtres. Le tirage au sort garantit au peuple qu'il restera souverain. J'ai pas le temps de développer, mais ne repoussez pas trop vite le tirage au sort en politique. Il y a des tas d'expériences sur Terre qui fonctionnent très bien. Je pense par exemple à la Colombie-Britannique, près de Vancouver, qui a fait réécrire tout son code électoral complexe et important par une assemblée tirée au sort. Et l'histoire que racontent aux journalistes et simples citoyens, effrayés au début, mais rassurés ensuite, devenant compétents par leur travail et finalement les larmes aux yeux au moment de rendre leur texte, fiers comme tout d'y être arrivés, en obtenant 57% du référendum, au référendum, toutes les expériences de jurys citoyens tirés au sort montrent une indiscutable compétence des citoyens ordinaires. Mais attention, pour défendre cette idée de tirage au sort, de la constituante au moins, et des représentants ensuite peut-être, on ne peut pas compter sur les élus, on ne peut compter que sur nous-mêmes, les gens normaux, à la base, ceux qui ne veulent pas du pouvoir. Et là, je voudrais partager avec vous cette formidable pensée d'Alain, le grand philosophe, qui disait « Le trait le plus visible dans l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. » Et dans un régime d'élection qui donne le pouvoir à ceux qui le veulent, Alain a raison, les pires gouverneront. Mais au contraire, le tirage au sort peut nous sortir de ce piège en offrant le pouvoir à tous ceux qui n'en veulent pas et qui sont souvent les meilleurs d'entre nous. Il faut donc que nous nous passions le mot, entre nous, entre gens normaux, et qu'on devienne tous formateurs de formateurs, pour devenir vite des milliards de globules blancs, des gentils virus, transportant une idée simple et forte, une idée qui vise précisément, de toutes nos forces réunies, le talon d'Achille de l'oligarchie. Nous exigeons l'honnêteté du processus constituant en remplaçant l'élection par le tirage au sort de l'Assemblée constituante. 15 minutes, c'est trop court. J'ai pas pu vous montrer le lien pourtant essentiel entre la monnaie et la Constitution. Ces problèmes sont indissociables. J'ai pas le temps ici d'en dire plus. Il faudra aller chercher le reste sur le net et dans les livres, travailler. Voyez le site lemessage.org, par exemple, qui résume bien tout ça. Je vous invite à nous rejoindre sur le net. On est en train de démontrer qu'on a besoin et qu'on est capable, on a envie d'écrire nous-mêmes notre Constitution, d'écrire nous-mêmes notre contrat social. Cette idée que je construis avec vous, elle marcherait bien sûr pour tous les pays de la Terre. Et si on est vraiment nombreux, il suffira de le vouloir pour que ça advienne, sans violence. Je vous remercie.